réplique le Caravage parmi nous avec Yannick Enel et Hector Obalk. Contre Nicolas Poussin, qui le qualifiait de destructeur de l'art, la postérité a tranché. Le Caravage fait aujourd'hui l'objet d'une admiration unanime. Il peignait à Rome dans les premières années du XVIIe siècle et ses toiles nous procurent une émotion immédiate. De tous les peintres d'autrefois, il est l'un de ceux qui nous parlent le plus. Mais que nous dit-il exactement ? Qu'aimons-nous en lui ? Qu'est-ce qui fait l'originalité et la beauté de son œuvre ? Qu'a-t-il apporté à la peinture et à notre manière de voir le monde ? Pour répondre à ces questions, le vocabulaire nous manque cruellement. Les mots nous font défaut. Nous avons du mal, un mal fou, à sortir du registre exclamatif. Afin de pallier cette déficience et d'arracher l'émerveillement à l'indicible, j'ai invité Yannick Enel, qui publie « La solitude Caravage », et Hector Obalk, qui a déjà consacré 3 spectacles à ce peintre inépuisable. Et je leur demanderai, pour commencer, comment s'est opérée dans leur vie la rencontre avec le Caravage. Yannick Enel.
Alors moi, c'est très précis. C'est une rencontre face à ce que je croyais être le portrait d'une femme. C'est un détail. On est dans les années 80, j'ai 15 ans, dans un pensionnat militaire, et j'ouvre un ouvrage de vulgarisation, si je puis dire, sur la peinture italienne. Et j'ai un coup de foudre à ce moment-là, c'est en noir et blanc en plus, figurez-vous. J'ai un coup de foudre pour une femme dont je ne comprends pas bien ce qu'elle fait. Elle a les bras tendus et surtout elle a un froncement de sourcils. Et c'est ce froncement que je vais trouver adorable, comme dirait Barthes. Ce froncement de sourcils rime avec cet autre froncement, celui des lacets qui lui serrent énormément le corsage, mettant en valeur sa poitrine. Voilà, je ne savais pas que c'était un Caravage, je ne savais pas que c'était le détail de Judith décapitant Holoferne, et je tombe immédiatement amoureux, de manière totalement amateur, l'amateur que je suis resté, et d'elle, et de la peinture, et de ce déchiffrement érogène que va devenir mon rapport avec les peintures et la peinture.
Et notamment la peinture du Caravage.
Spécialement la peinture du Caravage.
Alors, je rappelle que Judith, c'était une veuve d'une grande beauté qui a sauvé la ville de Béthanie, assiégée par les troupes de Holoferne, en séduisant celui-ci pour avoir l'occasion de le tuer. Holoferne, qui était le général d'un Nabucodonosor de légende. Mais justement, je suis un peu étonné, parce que vous avez vu simplement Judith, vous n'avez pas vu l'intégralité du tableau, vous l'avez découvert, ce tableau, beaucoup plus tard. Vous parlez de ce froncement, en effet. Mais justement, elle est saisie de l'horreur qu'elle laisse entrevoir elle-même quand elle tranche la tête d'Holoferne. Et c'est pas... visiblement, ce saisissement d'horreur qui vous a frappé. Vous étiez simplement immédiatement séduit par une figure très féminine.
Au fond, je crois que ce froncement d'horreur, enfin, je ne pouvais pas le qualifier d'horreur à l'époque, participe justement de la mise en scène érogène. La manière dont le Caravage fait sortir ce corps, et la plupart de ces corps, d'un fond noir, qu'il invente quasiment, la manière dont la lumière sculpte ces corps me semblaient comme une offrande, au fond. À ce moment-là, à 15 ans, je passais mon temps à sublimer le corps des femmes.
Surtout que vous étiez au Prytané.
Mais absolument, uniquement avec des garçons. Et ce qui se passe là, pour moi, même si ça relève de Thanatos, il s'agit quand même d'une affirmation érotique. Cette femme, et c'est aussi le génie du Caravage, cette femme est en train d'accomplir un crime, alors un crime dans l'histoire du salut, puisqu'elle sauve Israël, en un sens, mais en même temps, l'humidité qui humecte son corsage et qui semble offrir sa poitrine, sa gorge majestueuse, comme dit Baudelaire, et là, dans le même geste, au fond. Qu'est-ce qui est criminel dans ce tableau, c'est la question qui est posée. Où est le mal ?
Hector Balck.
On est au cœur des ambiguïtés caravagesques avec l'anecdote qui est un prétexte littéraire au travail de Yannick Enel. Il voit donc une image de cette dame qui est assez belle, faut bien le dire, et il se rend compte, je ne sais pas combien d'années plus tard, qu'il s'agit de quelqu'un qui est en train de couper la tête sanguinolente de sa victime. Mais c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que moi quand je dis il faut faire un gros plan sur cette dame pour se rendre compte, vous la trouvez érotique, c'est votre choix. Moi, je pense que
c'est pas un choix, ça, c'est
non, c'est votre ressenti. Moi, je trouve qu'elle avait véritablement la tête de quelqu'un qui pourrait jouer un personnage qui a un chagrin d'amour. Je veux dire par là que l'attitude des bourreaux chez Caravage donne une profondeur très très grande à l'acte même de l'assassinat. L'assassinat au niveau des mains est celui de ici et maintenant, là où le coup résonne et là où tout le monde est glacé par l'horreur. Mais la vérité, c'est que quand on regarde la tête des gens, on voit qu'ils ont un recul temporel, un recul métaphysique, j'ai envie de dire, qui fait qu'ils sont presque en train de souffrir au moment où ils donnent la mort et qui relève d'une méditation sur la mort et non plus d'une méditation sur l'assassinat. D'où le fait que les tableaux qui suivront seront avec des crânes morts sans qu'il y ait de tête sanguinolente. Il y aura dans sa production énormément de saints différents qui méditent devant des crânes morts.
Oui, c'est très très juste. Saint-François aussi.
Il y a trois versions de Saint-François et trois versions de Saint-François qui méditent devant un crâne mort. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on est dans l'instant présent et on est aussi dans la méditation sur le temps qui passe.
Cette question des bourreaux, si je puis me permettre, et vous avez absolument raison, elle est fondamentale. J'ai presque eu l'impression, en travaillant comme ça, à regarder des tableaux du Caravage pendant un an et demi, j'ai eu l'impression que le Caravage initiait le monde en peinture, hein, le monde des bourreaux. Il découvrait notre monde, qui est encore le nôtre finalement, un monde qui s'ouvre à la fin de la Renaissance comme étant le monde qui va appartenir aux bourreaux. Qui va appartenir aux bourreaux. Aux bourreaux au pluriel. Les bourreaux prolifèrent dans sa vie et dans ses tableaux. Et de fait, avec cette ambiguïté exceptionnelle qu'il a, effectivement, avec ce sens très violent des nuances. Et il y a, par exemple, dans une des flagellations du Christ, le Christ va, je crois que c'est celui qui est à Rouen, le Christ essaye de sortir du cadre, il n'est plus là. Il est en train d'être torturé, mais n'est plus là. Et les bourreaux épousent la trajectoire quasi sensuelle de ce torse nu du Christ. Même les bourreaux sont beaux, même quand ils ont une trogne d'assassins.
Oui, mais il y a les bourreaux, il y a aussi les victimes. C'est-à-dire que vous avez Judith saisie d'horreur par l'acte qu'elle entend commettre. Vous avez Holoferne, qui est à la fois qui souffre, qui est terrifié et qui exprime une espèce de surprise aussi à ce qui lui arrive. On le voit à l'instant de la décapitation. Et puis à cet autre tableau qui a joué un rôle important dans votre vie, Yannick Enel, qui est la représentation de Sainte Catherine d'Alexandrie. Mais parce que vous dites qu'elle ressemble un peu à Judith, en tout cas, elle vous donne le même type d'émotion amoureuse, si on peut dire. Et c'est vrai qu'elle est très belle. Mais justement, on ne peut pas savoir qu'elle va être une victime sur ces tableaux. Roberto Longhi nous dit qu'elle apparaît comme une belle minaudière appuyée à l'énorme roue d'un carrosse qui est cependant la roue du martyr qu'elle va subir, vêtue d'une chemise de lin blanc, la robe à passement doré de lumière, le manteau bleu foncé et or comme dans un Manet, l'épée teinte de rouge et bleu, à fendre le tableau, la palme sèche, déjà piquante, glissant sur le coussin de Damas. Donc il y a quelque chose de très calme dans ce tableau, alors qu'elle va subir le martyr.
Oui, alors calme. Calme et son contraire, en effet. A priori, il s'agit d'un portrait somptueux d'une dame, d'une aristocrate romaine qui prend les attributs, pour ceux qui sont savants, qui prend les attributs de Sainte Catherine d'Alexandrie. Sainte Catherine d'Alexandrie, au cas où nos auditeurs l'auraient oublié, il s'agit d'une dame qui qui était persuadé.
Grande savante, très grande savante.
Était persuadé.
Non, parce que. Mais d'ailleurs.
Au IVe siècle après Jésus-Christ, j'insiste, qui est persuadé de vouloir se marier avec le Christ. D'où le. Bon, bref. Mais je en rebas. Ce que j'ai, c'est que pour avoir refusé les avances du roi de sa région, je ne sais plus
où. En Égypte,
voilà. Elle est condamnée. Et elle est condamnée à avoir subir le martyre de la roue. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans le portrait en question? On voit un somptueux, mais vraiment un somptueux, on voit un tableau du 19e siècle, un somptueux portrait de cette aristocrate romaine qui est adossée à cette roue dont on s'aperçoit, dès qu'on le regarde plus de 10 secondes, qu'elle a des pointes acérées. Et évidemment, tout est dans le contraste entre les pointes acérées de la roue qui finira par l'épargner par une intervention divine, et son visage qui, en effet, a la douceur et la pâleur de Judith dans le tableau précédent. Ce qui est amusant dans ce tableau, c'est que, comme vous avez remarqué, il y a la mort à laquelle elle est échappée, et puis il y a la mort à laquelle elle n'échappera pas. Puisque ce qu'elle tient dans la main, c'est une épée, et l'épée, j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, est trempée de sang, du sang duquel elle sera condamnée plus tard.
Voilà. Alors vous dites, Yannick Ayel, que tout se passe comme si elle opposait à son supplice la noblesse de son dédain. Elle s'appuie contre la roue au cou pointu avec laquelle on la tortura, et tient de ses doigts délicats l'épée qui lui trancha la tête. Oui, c'est vrai, mais là...
C'est Hector un combat entre la beauté et l'horreur.
Voilà, mais Hector Bach, vous allez être un peu vite, oui. Non, pas du tout, pardon, sur la signification du tableau. Et d'ailleurs, vous êtes allé beaucoup trop vite en la qualifiant d'hystérique. Il faut prendre les choses comme la peinture les voyait et tout nous les fait. Donne à voir, et comme la légende nous en parle. Parce que la légende, elle est magnifiquement donnée par Jacques de Voragine, dans les légendes dorées. Et c'est extraordinaire. L'empereur Maxence convoque les riches et les pauvres pour les faire immoler aux idoles et pour punir les chrétiens qui ne voudraient pas. Catherine, elle a 18 ans, c'est la fille d'un roi, elle est parfaitement bien faite et d'une incroyable beauté, mais elle lui tient tête. Et alors évidemment, il veut la confondre, il convoque tous les savants du royaume, et c'est le contraire. Non seulement elle n'est pas confondue, mais elle les convertit. Elle est convertie par tout ce qu'elle réussit à dire, et donc ils vont au martyr, presque joyeusement. À ce moment-là, le roi, l'empereur, subjugué, lui propose d'être sa deuxième épouse, la deuxième reine. Elle continue à refuser, convertit la reine, et c'est au bout de ce long tête-à-tête qu'il finit, en effet, par la faire décapiter. Mais là, si je le raconte, c'est que je parlais tout à l'heure de notre émotion immédiate. Mais en même temps, nous sommes perdus, c'est-à-dire, que voyons-nous d'un tableau si nous ne connaissons plus la signification? Parce que le tableau est un drame. Et là, si nous voyons une femme avec à côté d'une roue, bon, nous pouvons remarquer que c'est la roue du supplice, eh bien, notre émotion est pauvre. Donc il y a aussi cette véritable difficulté. Est-ce que le sens s'interpose entre nous et le tableau, ou est-ce que sans le sens, nous avons face au tableau une émotion bête?
Je pense que c'est la peinture elle-même qui nous apprend à voir. Et quand on va voir le spectacle d'Hector Obalque, quand on lit ses livres, on voit très bien que tout est une question de détails, et qu'un tableau, c'est un roulis, un mouvement de détails. Si on ne connaît pas l'histoire véritablement de Sainte-Catherine d'Alexandrie avant, eh bien on la comprend, on apprend à l'apprendre, si je puis dire, en regardant le tableau, en se demandant ce que c'est que cette roue, en se demandant ce que c'est que cette épée. Et dans son regard, si on regarde bien, si on arrive à sortir de cet épaississement de la sensibilité dans lequel on est englué, eh bien on comprend qu'au fond cette femme se moque pas mal de la mort. La mort n'existe pas pour elle. C'est pas spécialement qu'elle soit peinte en tant que ressuscitée, c'est que la mise à mort, le supplice, n'atteint pas une catholique fervente. Je crois qu'on peut refaire, face à chaque tableau, un itinéraire spirituel qui nous renvoie au nôtre, d'ailleurs, ou alors à notre néant. Mais là, il est question véritablement, dans ce tableau, à la fois de la puissance physique féminine. D'ailleurs, c'est le même modèle, c'est Philidé Melandroni qui posait pour la Judith. Et donc, puissance de la beauté, mais également puissance de transgression de la mort. Voilà.
Je ne peux qu'être d'accord avec Yannick, mais j'essaye de relever le gant de Alain, dont on a bien compris le message. Son message, c'est de dire, face à un formalisme que je figure souvent dans nos dialogues, il est quand même bon de connaître cette légende qui fait la bande-son, si j'ose dire, du tableau.
Qui fait le drame.
Une sorte d'information supplémentaire au tableau et dont on peut se demander si elle était déjà dans le tableau. Ma réponse est très simple. Si le tableau est bon, c'est que c'était déjà dans le tableau. Mmh. Voilà. Et en effet, je m'excuse, mais évidemment, sur une reproduction un petit peu mauvaise comme celle-là, on n'est pas très sensible au fait que la roue ait des pointes acérées. Mais quand on est très sensible à la peinture et qu'on regarde ça de très très près, qu'on est assis sur une échelle ou debout sur une échelle et qu'on regarde le velouté ici de la chair et là, la pointe acérée du métal, on voit que le drame est là. Qu'après, on aille comprendre le pourquoi et le comment du drame, Alain. Oui, on peut le faire, et c'est tant mieux, il ne faudrait pas se cacher ce plaisir. Mais j'insiste sur le fait que tout est déjà là.
Alors, je vais poursuivre avec un autre tableau dont vous parlez, Yannick Haenel, dans votre livre, et que j'ai découvert dans votre spectacle Hector Obalk. Je suis malheureusement un peu ignorant en peinture, mais son image me poursuit. Et je l'ai retrouvé dans un livre, c'est la mort de Marie. Je ne savais pas que la mort de Marie était représentée d'abord. Je pensais, Marie, c'est l'Assomption. Donc, en fait, j'ai appris, oui, qu'elle était représentée plus par les peintres byzantins que par les peintres occidentaux, mais elle était représentée simplement dans la théologie catholique, cette mort n'est pas tout à fait une mort, parce que son corps n'est pas sujet à la corruption. Et on l'appelle la dormition. Et quand elle est représentée, c'est sans aucune souffrance. Et le Christ descend du ciel pour recueillir son âme. Et là, tout d'un coup, je vois ce tableau. Elle a la main tendue, une robe rouge. Les apôtres pleurent autour d'elle. Et son ventre est enflé. Et c'est vraiment la souffrance de la mort. Et j'ai pas tout à fait tort, parce que j'ai appris, en préparant l'émission, que ce tableau avait connu des avatars singuliers. C'est-à-dire que il avait été enlevé de l'église pour laquelle il avait été peint, parce que précisément, Caravage était accusé d'avoir imité trop fidèlement le corps enflé d'une femme morte. Et Baglione, qui est son biographe et son rival, dit qu'effectivement, il a été enlevé à cause de son ventre enflé et de ses jambes découvertes et qu'il a été acheté par le duc de Mantoue qui l'a placé dans sa très noble galerie. Eh bien moi, je prétends que pour comprendre le tableau et pour l'aimer complètement, on a besoin de savoir tout ça. Parce qu'on a besoin de... Justement, c'est par là que se signifie l'originalité, la singularité... Et même, si vous voulez, la transgression, si l'on veut, du Caravage. Tout d'un coup, même la Vierge meurt. C'est-à-dire, la mort est là, et elle n'épargne personne, la corruptibilité est partout, et elle n'épargne pas la Vierge. On ne peut pas penser à une dormition quand on voit la mort de la Vierge chez Caravage.
Attendez, c'est pas parce que c'est bien de le savoir que c'était nécessaire de le savoir.
Si, c'est nécessaire.
Voilà, alors tout est là. À quel degré de nécessité ? Nécessité, ça veut dire nécessité. Ça veut dire que sans la connaissance historique de la manière dont on représente la Vierge, soit en Assomption, soit en Dormition, selon, on arrive à ce tableau-là qui transgresse un tout petit peu les codes, puisqu'il s'agit d'une Dormition de quelqu'un qui a le corps abîmé par la mort qu'elle vient de traverser, c'est un plus. Si vous dites non, c'était nécessaire de le savoir, ça veut donc dire qu'on n'a rien à voir si on ne le sait pas. Et c'est faux, parce que ce tableau est très très beau si on ne le sait pas. Vous ne pouvez pas non plus nier ce point-là.
Non,
donc,
c'est
vous êtes bien qu'il y a bien un degré. Et dans ce degré, je continue de penser que 75% on voit le tableau et il est très très beau. Il est très très beau, ne serait-ce que la manière dont Sainte-Marie-Madeleine est devant le corps de la Vierge, ouvert dans un cube à l'intérieur d'un angle droit. C'est une géométrie extraordinaire dans la partie basse du tableau, qui s'appelle la mort de la Vierge et qui se trouve au Louvre pour ceux qui nous écoutent.
Voilà. Justement, je voulais juste ajouter que pour une fois, on voit la Vierge. Moi, j'ai habité à Firenze et à Florence pendant 4-5 ans, donc des Madones, j'en ai vu quotidiennement, si je puis dire. Et il m'est arrivé d'aller, avec une petite fille, la mienne, au Louvre, donc grande galerie, et de lui montrer des tableaux. Elle me disait, bon, il n'y a que des morts et des anges. Et à un moment, on s'est mis à regarder tous les deux ce tableau. Et j'ai eu la sensation de voir enfin, j'ai l'air d'être un mystique en disant ça, de voir enfin la Vierge. Parce que avec ses pieds nus misérables, avec son ventre effectivement gros de cadavres, quelque chose a lieu d'entièrement horizontal. Enfin, on est sur une table quasiment de dissection déjà. Et il se trouve qu'en haut, tout en haut du tableau, il y a ce drapé immense, ce drapé de velours bordeaux, qui semble nous dire, de manière très crue là aussi, que le sacré existe, mais que le sacré, c'est pas le contraire de la mort. C'est aussi cet instant de la mort qui existe même pour cette femme.
Oui.
Il n'y a que trois tableaux où il y a un rideau rouge en haut. Ouais. C'est celui-ci, Judith et Holoferne.
Judith, voilà.
Et un troisième dont le souvenir va me revenir. Et il est évident que ce drapé, c'est pas juste un drapé. C'est un immense lait de tissu rouge qui est noué, on ne sait pas comment, autour d'une colonne pour qu'il tienne comme il peut et qui ne peut pas ne pas nous faire penser à un cœur qui palpite.
Alors, mais justement, si on en reste à ce tableau, on voit ce qu'a été l'apport, la nouveauté du Caravage. Et là, je vous citerai Yves Bonnefoy, les choses qu'il peint, et plus encore les êtres, se refusent à signifier au-delà de leur figure immédiate pour témoigner d'une vérité en plus, d'une raison d'être, d'une espérance. Chez Caravage, tout crie qu'il n'y a que néant dans ce monde de l'âme, en peine. Laquelle n'a de recours qu'en la grâce, dont les voix sont énigmatiques. Et la dernière phrase, que je trouve magnifique, ce peintre ne représente que pour attester la douleur.
Oui.
Ce peintre ne représente que pour attester la douleur.
Je me dis que, alors ce que dit Bonnefoy est très beau, mais je me dis que le Caravage n'est pas que le peintre du néant. Effectivement, il est celui qui vient signer pour moi la fin de la Renaissance, la fin d'une croyance dans l'harmonie des corps, avec une harmonie, disons, cosmique. Mais il est aussi quelqu'un qui est déchiré entre ce que Descartes appelle Dieu et le néant. Entre Dieu et le néant. Donc c'est plutôt un peintre qui questionne. J'en suis arrivé à me dire que quand je vois les représentations que le Caravage fait du Christ et de ses torses qui sont somptueux, enfin, j'en suis arrivé à me dire et à remarquer qu'au fil des années, s'autoportraiturant dans les scènes où il montre le Christ, le Caravage se rapproche centimètre par centimètre jusqu'à son dernier tableau, il se rapproche du Christ. Il y a une quête éperdue de sacré chez le Caravage qui ne relève pas, là, pour le coup, du néant dont parle Bonnefoy, mais d'une interrogation inquiète, douloureuse, effectivement, peut-être agnostique, on dirait aujourd'hui, mais voilà, le sacré est à l'œuvre jusque dans le crime et le péché dont il est la victime, finalement.
Pour moi, c'est un peu voisin, mais c'est cousin plutôt que voisin de ce que dit Yannick. Ce qui est le plus original chez Caravage, une fois qu'on a passé le choc de cette confrontation de la beauté et de l'horreur. On a beaucoup parlé de l'horreur, on a un peu moins parlé de la beauté. Il ne s'agit pas de la beauté de l'horreur, hein, qu'on soit bien clair. Il s'agit de la beauté qui est parfois juxtaposée à l'horreur. La dame n'a rien d'horrible. Les jeunes gens, qui sont des tableaux dans lesquels il n'y a rien d'horrible non plus, les jeunes gens, les jeunes Jean-Baptiste, et les cupidons, etc., qu'il peint. Et le bouquet de fleurs, qui est une des premières natures mortes de l'histoire du monde, et peut-être la plus belle de toute la corbeille de fruits et de ses légumes. Bref, une fois qu'on a passé cette histoire de confrontation du beauté à de l'horreur, ou, ce qui est encore plus profond chez Caravage, de l'éclat de la jeunesse, qui est très important chez lui, avec sa haine, enfin sa hantise de la vieillesse, bref, et la méditation sur la mort. La jeunesse et la mort. Il y a quelque chose qui me semblait plus métaphysique, en tous les cas qui a fait ma réflexion sur Caravage depuis que je me suis penché, c'est le fait qu'il représente de manière particulièrement spectaculaire un temps particulièrement court. Alors j'ai un petit développement à dire là-dessus, si vous voulez je fais maintenant.
Allez-y.
C'est très simple, la peinture ne représente pas toujours des temps courts. Il est même difficile en peinture de représenter un instant. Il est très facile en photo, les gens font des WhatsApp toute la journée pour faire des photos d'un instant qui n'a aucun intérêt. Non, en peinture c'est beaucoup plus difficile de faire un temps court parce que c'est le temps court qui fait la vie. Si je retiens quelque chose de Caravage, au-delà de l'horreur ou au-delà de la beauté, c'est la fraîcheur. Pardon de le dire comme ça, c'est-à-dire la fraîcheur de l'instant qui vient de passer. Et cette fraîcheur-là, je la retrouve pas seulement, alors fraîcheur, le mot est un peu exagéré, mais on va dire le caractère présent, si vous préférez, c'est-à-dire qui vient d'arriver juste maintenant. un crime vient d'arriver, certes, mais si on regarde l'ensemble de l'œuvre, qui n'est pas quand même axée seulement sur l'horreur, on prend la première partie de son œuvre, qui était la première conférence spectacle que j'avais donnée au théâtre, c'était les jeunes éphèbes qui se faisaient mordre par un lézard. C'était donc un instant très court aussi. C'est un instant très court qui tantôt fut anecdotique, puis après a été dramatique, violent et spectaculaire, et qui termine pour moi avec les chefs-d'œuvre de Caravage, quand il n'est ni anecdotique, ni violent, ni spectaculaire, il est complètement intellectuel et particulièrement subtil, c'est le moment de la compréhension, au moment où on a compris. On a compris que, en général c'est le moment de révélation, on a compris que, tiens, c'est Jésus qui est là parmi nous dans la scène à Emmaüs, la vocation n'est rien d'autre qu'une désignation, donc un moment où il faut comprendre que je suis désigné, l'inspiration de Saint Matthieu, c'est aussi un moment divin, mais qu'il ressent dans ses tripes, puisque ça fait trébucher Saint Matthieu sur son propre tabouret. La confirmation qu'il s'agit bien de Jésus tient un moment dans l'incrédulité de Saint Thomas. Tout ça, c'est des moments, des instants, j'ai envie de dire intellectuels, conceptuels, et qui saisissent le tableau entier.
Alors, un mot justement sur la vocation de Saint Matthieu.
Oui.
Parce que c'est vous venez d'en parler, Hector, et très bien, mais vous y consacrez quelques pages importantes, Yannick Hennel, dans votre livre. Alors, il faudra décrire ce très très beau tableau. C'est Jésus, en effet, qui entre dans la pièce où Saint Matthieu se trouve avec les autres collecteurs d'impôts. C'est ça qui est très important. Et ça aussi, il faut le savoir pour saisir tout l'enjeu du tableau. Et Jésus le désigne du doigt.
Caché par Saint Pierre.
Oui, un Jésus, d'ailleurs, d'une beauté... je ne sais pas comment la qualifier, presque espagnole, très différent des autres représentations du Christ, notamment dans les Pèlerins d'Emmaüs, la première version où il est joufflu, bizarrement joufflu.
Voire bouffi.
Et là, vous dites, Yannick Hennel, que l'appel du Christ s'égale à celui de la peinture qui fouille dans les ténèbres afin d'en révéler la déchirure. La vocation de Saint Matthieu rompt avec la Renaissance parce qu'elle prend la forme des ténèbres qui interrompt les corps, et surtout vous dites que justement les hommes se serrent autour de l'argent et sont tellement aveuglés par la valeur qu'ils continuent à compter et ne lèvent pas leurs yeux lorsqu'un dieu vient à passer. Le salut, c'est-à-dire ce qui échappe au calcul, ne vient pour personne, et le salut est venu pour Saint Matthieu, très surpris de ce qui lui arrive. Vous avez raison, c'est encore un instant.
Mais c'est vrai que dans ce tableau stupéfiant, enfin quand on va à Rome et qu'on entre dans l'église des Français, Saint-Louis des Français, même si on a du mal à se trouver face au tableau, enfin on doit se contorsionner, on ne voit que ce bras qui est en train de s'élancer avec cet index mou qui imite le geste évidemment de Michel-Ange de la chapelle Sixtine, et on est frappé par la manière dont ça coupe, comme au couteau, enfin dont ça coupe. Dont la lumière coupe les ténèbres, comme au début de l'évangile de Saint Jean. Et surtout, il m'a toujours semblé que c'était le bras du Caravage, au fond. C'était le pinceau. Et c'est ce pinceau-là qui travaille ce qu'on a l'habitude d'appeler clair-obscur. Enfin, dans ce tableau, il y a presque un art poétique. Il y a une méthode. Il suffit d'entrer dans le visible pour interrompre, si le bras est armé de spirituel ou d'art, pour interrompre la mêlée des ténèbres. Et effectivement, vous avez raison, ce qui est très très important, et c'est à peine raconté par Matthieu, d'ailleurs, on ne sait pas si c'est un intérieur dans l'évangile. Et le génie du Caravage, c'est de le mettre dans un logis ténébreux, dans un corps de garde quasiment. Ce qui est très important, c'est que les hommes sont obnubilés, aveuglés par de l'argent, ils comptent les pièces. Et ça, même si on ne sait rien, pour revenir là-dessus, même si on ne sait rien sur cette scène, on voit très bien qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui a lieu, parce qu'ils sont obsédés par le plus proche, qui sont les pièces. Ils comptent des pièces. Il y en a un d'entre eux qui est génialement aveugle, au fond. Celui-là n'aura jamais la grâce.
Pour que les gens voient un peu mieux le tableau, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre incroyable, ce tableau, il faut s'imaginer qu'on est dans une pièce qui n'a pas de fenêtre, ou presque, en tous les cas, qui est un mur qui était sans décor. Donc, il y a une table qui est on ne peut plus sobre, autour de laquelle sont assis 5 ou 6 personnes, 2 habillées de façon très bourgeoise, et 3 qui sont les collègues du collecteur d'impôts que figure Saint Matthieu, et qu'à droite, une partie droite. La lumière vient de droite, mais on ne sait pas d'où elle vient, on ne voit pas la fenêtre d'où elle vient. Et à droite se trouve Jésus qui tend son bras pour désigner notre ami. Et là, il y a un mélange, si vous voulez, de quelque chose que je ne sais plus comment je l'appelle, mais une sorte de... Il faut donner un eau qui est un peu contradictoire dans les termes, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Il y a de la luxuriance incroyable dans les vêtements, et il y a, alors que la pièce est vétuste, et que tout cela sent la misère. Il y a un mélange comme ça chez Caravage, où il a fait des démonstrations, si vous voulez, de virtuosité technique pour rendre les tissus les plus beaux, mais toujours avec parcimonie. Il y a une luxuriance parcimonieuse qui fait tout le truc dingue de Caravage.
Mais vous savez, en voyant ce tableau, effectivement,
il est
on ne peut pas ne pas se poser la question de notre propre position. Où est-on? Vous savez, c'est dans la Genèse, Dieu dit ça à Adam, où es-tu? C'est-à-dire, es-tu dans la demeure de la vérité? Où est ta vérité? Est-ce que nous sommes attablés, là, en train de compter, nous aussi, notre petit pognon, ou celui qu'on aimerait avoir? Est-ce qu'on est un peu éclairé par la peinture du Caravage? Est-ce qu'on est déjà un peu dans la grâce, comme les deux créatures empanachées? Effectivement, il y a l'une des deux magnifiquement enfantine, enfin un très beau garçon. On sent que lui sent que quelque chose est là, de l'ordre de la présence, il sera peut-être sauvé. Et de fait, en regardant le Caravage, c'est pour ça que j'avais choisi précisément le Caravage, je pense comme Hector Obal que c'est l'un des plus grands peintres enfin du monde occidental, je l'avais choisi parce que à chaque fois, ce peintre me pose la question de savoir où j'en suis, avec la vérité, avec le courage de la vérité, comme dirait Foucault, avec l'idée que je me fais de ma vie, et avec là où je crois aller, la question du salut, la question du Christ, toutes les autres questions.
S'il vous pose cette question, et c'est à mon tour de me faire formaliste, c'est parce que dans ces tableaux, comme vous le dites d'ailleurs Yannick Enel, la lumière tranche les ténèbres.
Oui.
C'est pour ça qu'on se sent appelé par ces tableaux. Et en effet, l'un des apports du Caravage, c'est le clair-obscur. Et ça a créé une école caravagesque. En France, il y a eu notamment...
Rembrandt, Georges de la Tour...
Et Valadon de Boulogne.
Tout le monde.
Et comment plus donc, et alors, c'est quoi, justement, cette nouveauté du Caravage? C'est quoi ce clair-obscur?
Ah, vous...
Hector Obal, c'est difficile?
C'est le sujet de mon spectacle d'après-demain, là, lundi soir. Si je devais résumer toute l'histoire de la peinture, maintenant, admettons que je n'ai que 30 secondes pour le faire, ça sera plus simple. Il y a une première révolution qui n'est pas une révolution, c'est une évolution, ça s'appelle la Renaissance. À cette Renaissance, elle a consisté à faire que, finalement, en seulement 100 ans, entre 1425 et 1505, 90 ans, la perspective, l'anatomie, les raffinements de la peinture à l'huile, notamment dans le rendu des textures, etc., et progresser. En 1505, tout le monde sait très bien peindre et tout le monde sait très bien représenter la réalité. Là-dessus arrivent des gens qui trouvent, oui, d'accord, c'est bien, maintenant on va essayer de pousser le bouchon plus long, et arrive le maniérisme. Et le maniérisme consiste à jouer avec les codes. Maintenant qu'on connaît les codes, on les joue. Deuxième révolution. Et le maniérisme a donné des peintures fameuses de Pontormo, de Corrège, de tous les maniéristes florentins, Rosso, Fiorentino, et évidemment Michel-Ange. Et puis, il a fini par s'étioler dans quelque chose qui flottait, qui était sans forme, dans laquelle il n'y avait pas d'apesanteur et dans laquelle tous les corps étaient plus déhanchés les uns que les autres. Arrive Caravage, qui dit stop au maniérisme. Caravage est le premier, il fait retomber les corps par terre, les ombres sont puissantes, le clair-obscur arrive, les ongles sont noirs, les mains sont sales, le réalisme arrive, c'est un deuxième victoire du réalisme. Et ce réalisme-là fait toute l'histoire de Caravage. Il est au cœur de mon exposé sur toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures, que je ferai la prochaine fois. Et puis, à la fin, ce réalisme ouvre au XVIIe siècle une peinture qui devient comme, si vous voulez, un instrument de vision qui va au-delà du christianisme ou de la représentation de la mythologie, puisque la nature morte, la scène de marine navale, le paysage commence à arriver. Et puis continue l'histoire, mais on va peut-être s'arrêter à Caravage,
oui.
Je n'en dirai
alors,
pas plus.
Voilà. Justement.
Voilà comment je situe Caravage.
Très bien.
Comme la révolution du réalisme
là,
après le maniérisme.
Ça me rappelle le propos d'un contemporain, Monseigneur Agucci, je crois qu'on prononce comme ça. Il dit du Caravage qu'il a abandonné l'idée de beauté, tout disposé qu'il était à suivre entièrement celle de similitude. Et Yves Bonnefoy va dans le même sens, il dit qu'avec Caravage, on dissocie pour la première fois la représentation de l'objet et la recherche d'un idéal. Et Roberto Longhi parle longuement du réalisme du Caravage. Il peint, dit-il, même des tranches de vie. Il avait le diable au corps de la peinture naturelle. Alors, est-ce cela, pour vous, la grande contribution du Caravage, Yannick Hébert?
Moi, je crois qu'il est encore question de beauté.
Avec ses pieds crasseux et, voilà. Et ses ongles sales. C'est vrai que c'est quand même très frappant.
Il est encore question de beauté, même dans les pieds sales.
Oui.
La beauté va jusque-là, en fait. Je crois que le Caravage a ce site spécial, peut-être de nouveau, peut-être de révolutionnaire, de considérer qu'il n'y a pas une partie du corps qui serait profane et l'autre noble, qu'il n'y a pas une partie de l'existence qui serait profane et l'autre noble, mais que l'existence et les corps sont pris dans quelque chose qui à la fois les englue dans la glaise originelle, mais aussi les fait sauter d'étreinte et d'illumination. Il y a une explosivité de l'incarnation chez lui. Il y a quelque chose qui s'affirme sexuellement. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il est allé chercher ses premiers modèles dans la rue, des ragazzi ou des prostituées, ou qu'il se peignait lui-même au miroir. Il n'y a pas à être spécialement beau à l'avance pour poser dans la peinture. La peinture devient un cadre qui peut accueillir l'humanité, même la plus sale, a priori, et la beauté va s'inventer, au sens latin, se découvrir, à partir de quelque chose qui relève de l'existence la plus crue. Pour moi, j'ai compris, oui, mieux qu'avec la philosophie, ce qu'on appelle le Dasein.
L'être-là,
en regardant le Caravage intensément. Là, il ouais. y a de l'être-là.
Oui.
Le sentiment que ça se passe maintenant,
oui,
c'est très important.
Maintenant, c'est,
et c'est quand même aussi aidé par le fait qu'on a affaire à quelqu'un qui est un metteur en scène exceptionnel. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une évidence de la lecture de l'image qui est incroyable. Je me permettrais juste de demander aux éditeurs d'aller chercher dans leurs livres et de comparer le fameux scène à Emmaüs, où il y a deux personnes qui reconnaissent Emmaüs. Il y en a un qui écarte ses coudes, l'autre qui est...
Qui reconnaissent le Christ.
Qui reconnaissent le Christ. C'est deux quidames. Il y en a un qui est prêt à se lever de chaise, l'autre qui écarte ses bras. Cette composition, mais exactement telle que je vous la décris, hein, c'est exactement celle d'une même scène à Emmaüs de Titien, qui est très belle et qui se trouve au Louvre. Sauf que l'image n'a pas du tout cette même fulgurance. Il y a quand même une efficacité de l'image, hein, au sens le plus simple, le plus graphique du terme, qui est très très grande chez Caravage et qui aide aussi à son succès d'aujourd'hui.
Mais vous avez parlé, Yannick Hennel, d'incarnation. Et en effet, c'est peut-être quand même ce qui distingue Caravage du réalisme tel qu'on le connaît. Il n'est pas tout à fait le précurseur de Courbet. C'est quand même autre chose, parce que c'est, comme l'a dit Fumaroli, l'incarnation de l'âme éprise de lumière dans l'opacité incurablement ténébreuse de l'espace, du temps et du corps mortel. D'ailleurs, toute la grande peinture chrétienne se joue autour du thème de l'incarnation.
Absolument.
Ce thème absolument incroyable. Le Dieu, c'est la kénose. Oui. Le Dieu s'est incarné. Il a même connu la mort. Et il est vrai, on peut parler que la peinture maniériste n'affronte pas les choses exactement comme le Caravage. N'empêche qu'elle aussi, elle fait face à la mort. Il y a une descente de croix de Pontormo absolument sublime. Une mise au tombeau de Rousseau. On voit plus lointainement dans l'histoire de l'art un Christ au tombeau de Mantegna, il y a le retable d'Isenheim, enfin, on a l'impression que cette peinture ne nous parle que de la mort, alors même qu'il s'agit de résurrection et qu'il s'agit d'entretenir la foi des fidèles. Et c'est encore plus vrai, peut-être, du Caravage.
C'est vrai. D'ailleurs, on s'est entêté à enténébrer à rendre illisible, si je puis dire, la peinture du Caravage, en lui attribuant, comme vous le savez, pendant deux ou trois siècles, la moindre peinture de taverne avec le moindre hurluberlu, ahuri et prix de boisson, alors même que ce dont il s'agit, sous le nom du Caravage, ne relève pas, je dirais, d'une démocratisation de la peinture où on ferait venir le peuple, mais de quelque chose qui relève de ce que Pascal appelle le fait de venir en être. Dans les pensées de Pascal, il s'agit de venir en être, c'est-à-dire de naître et de ressusciter. L'incarnation, qui, je dirais, rend les corps du Caravage, les sorts de cette taverne, les expose à quelque chose qui est avant tout ontologique. Pour moi, c'est le Caravage est un peintre, je me risque à dire ça, enfin, un peintre ontologique. Il est question de l'être. sous toutes ses formes, sous tous ses corps. C'est une peinture qui pense, la peinture fait penser, et elle pense elle-même.
Et c'est aussi un peintre métaphysique, parce que je crois, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il prend très au sérieux, le Caravage, les thèmes chrétiens. Oui.
C'est pour mieux les mettre en valeur, évidemment. Il a abandonné une carrière de peintre de genre pour laquelle il aurait été extrêmement doué pour mettre en valeur par des mises en scène qui, de loin, ont la vivacité d'une scène de genre, ont, par leur sobriété, le caractère métaphysique qui se prête au sujet sacré qu'il enseigne. C'est un peintre chrétien de part en part, mais sur l'importance de la carnation dans la peinture et sur le fait que la peinture est avant tout chrétienne, avant d'être protestante, juive ou musulmane, j'ai une petite théorie qui irait dans votre sens. Je peux vous la dire en deux minutes. Hein.
Allez-y.
C'est très simple. On a affaire à une religion dont le génie et dont l'originalité, hein, le génie, la singularité, veut que la personne la plus importante de cette religion, son Bouddha à elle, c'est-à-dire le Jésus, soit l'homme le plus humble. Je dis que des banalités en disant ça, mais il faut les dire, le plus humble qui soit et peut-être le moins en forme qui soit. C'est vraiment pas un Superman pour les jeunes auditeurs qui peuvent nous écouter. Cette religion donc met en valeur que la chose la plus sacrée, c'est l'homme le plus misérable qui soit. Or, en peinture, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire? Ce n'est pas la prairie qui est verte, ce n'est pas le ciel qui est bleu. Ce qui est le plus difficile à peindre, c'est la peau, c'est la chair. Et donc, quand on voit tous ces gens autour d'un cadavre qui descend, comme un nu qui descend l'escalier, comme ça, d'une descente de croix, et on voit tous les gens autour, et qui regardent quoi? Ils regardent non seulement la chair du Christ, mais ils regardent comment le peintre a pu se débrouiller pour peindre aussi bien cette chair. Et cette chair est aussi belle, qu'il s'agisse de Greco, qu'il s'agisse de Pontormo, qu'il s'agisse de Titien, ou qu'il s'agisse de Caravage.
Oui. Alors,
il est plus chrétien que moi, il peut l'être.
Vous avez remarqué.
Mais il est vrai que ce que vous avez décrit là, c'est en effet le génie du christianisme, Hector
voilà.
Balck.
Et donc de la peinture.
Et donc de la peinture qui s'en est suivie, en quelque sorte.
Exactement, qui s'en est suivie.
Parmi les grandes toiles
religieuses,
si l'on peut dire.
Oui, qui ont l'air d'être des scènes d'action,
voilà,
au départ.
Je voudrais que vous me parliez un instant...
De la conversion de
saint Paul, l'un et l'autre.
Ah bah écoutez, là, c'est effectivement, on parlait de fulgurance, de fulguration, d'explosivité de l'instant chez le Caravage. Le ravissement de saint Paul va détourner complètement les codes de ce qu'il en est d'une illumination spirituelle, chrétienne, puisqu'on voit toutes les choses à l'envers. Premièrement, Paul... On voit ça à Rome, dans l'église Santa Maria del Popolo. Paul, il s'appelle encore Saül, est désarçonné au sens strict du terme. Il est allongé sur le sol, les bras grands ouverts et les yeux fermés. Et à ce moment-là, d'ailleurs, au fond, ce qu'il voit, c'est un néant. Maître Eckhart a écrit une page sublime dans ses sermons sur ça, sur le fait que Dieu coïncide avec le néant. À ce moment, il n'y a plus rien. Et la deuxième grande chose, enfin, qui frappe tout regardeur, si je puis dire, c'est le postérieur du cheval. Le derrière du cheval qui prend toute la toile, faut oser quand même mettre en avant comme dans ce sujet singulièrement théologique, le postérieur de ce cheval aussi immense que la baleine blanche de Melville, qui vient à la place de Dieu. Il n'y a pas besoin de montrer Dieu. Tout en haut à droite, très discrètement, on a des rayons qui semblent s'estomper, qui seraient peut-être le divin. Mais non, à la place, il y a ce cheval.
Autrement dit, qu'est-ce qu'on voit? On voit un cheval de profil, tout simplement dans toute sa majesté, on dirait un Géricault, avec la tête du cheval, on dirait un Velasquez, enfin c'est incroyable, un siècle ou deux siècles après l'un et l'autre de ces deux peintres. On a donc un cheval qui est de profil, hein, si j'ose dire, et puis on a un homme qui est au sol et qui lui est en contre-plongée. Et avec ça, il fait le rectangle de sa composition qui est parfaite. Là où ça devient compliqué à composer, évidemment, c'est là où les jambes du cheval et les jambes de l'homme qui lui est allongé, vu à l'envers, vont se rencontrer et fait tout l'art de la composition.
Mais alors, le cheval, d'ailleurs, comme vous l'avez dit lors de votre spectacle, Hector Obal, occupe à peu près l'essentiel de la toile.
Mais oui, c'est une peinture animalière.
Mais alors, c'est une sorte de peinture animalière. Mais moi, qui suis assoiffé d'iconographie et de signification,
et de littérature,
j'ai lu quand même, oui. Et ça m'a éclairé sur ma propre émotion, que le cheval est une allégorie de l'homme orgueilleux, et que la chute du cheval, c'est la conversion de Paul, de la superbe du persécuteur à l'humilité de l'apôtre. Quand même, il y a ça aussi.
Oui.
Vous êtes d'accord ?
Ben, je ne peux pas ne pas être d'accord.
Bon, ben voilà. Donc, mais alors, simplement...
C'est un plus.
C'est un plus. Bon, ben,
c'est déjà pas mal. C'est déjà bien d'apporter un plus.
Apporter un plus à Hector Balk, franchement, il faut le faire.
Non, bon. C'était à Caravage que je disais.
Mais...
c'est pas toujours.
Le Caravage, c'est aussi...
Je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais imaginez que ce soit mal peint, on s'en foutrait de tout ça. Et on s'en foutrait de votre histoire de cheval. C'est parce que c'est bien peint qu'on s'intéresse au tableau.
Oui.
Soyez honnête.
Mais c'est parce que c'est bien peint qu'on s'intéresse au tableau, mais quand on a tout ça en tête, on sait ce qui nous intéresse. Voilà. Et l'émotion s'approfondit. Mmh. Alors simplement, le Caravage, c'était un peintre religieux, si l'on peut dire, enfin.
Oui, tout à fait.
Peintre de l'incarnation, peintre des grandes scènes de l'Ancien et surtout du Nouveau Testament, entre la conversion de saint Paul et la vocation de saint Matthieu. Mais c'était aussi le peintre qui est à l'origine, d'après Roberto Longhi en tout cas, de la nature morte. Il y a des natures mortes inouïes dans le Caravage. Oui, et là, effectivement, absolument. On peut en savourer la beauté toute seule. Des corbeilles de fruits comme on n'en a jamais vu avant.
C'est la plus belle au monde, je suis d'accord avec Hector Obal. La corbeille qu'on peut voir à la Pinacothèque à Milan.
Et dans laquelle vous pouvez voir aussi plein de choses. Vous pouvez voir aussi la vie et la mort.
Précisément.
Il y a des feuilles qui sont abîmées, il y en a d'autres qui ne le sont pas.
Précisément, c'est ça le génie de cette corbeille, de cette nature morte, c'est qu'elle fait penser. Elle donne le monde. Elle nous accorde quelque chose qui relève du foisonnement et de l'extinction des choses. D'une présence qui n'a même pas besoin d'être soulignée. C'est là qu'on voit, effectivement, vous avez raison, que non seulement c'est bien peint, mais c'est de la peinture. Voilà. Quand c'est de la peinture, alors toute la présence du monde est là. Moi, je me suis aventuré dans ce livre à essayer de me demander s'il n'y avait pas un rapport avec les peintures de l'Antiquité romaine, que vraisemblablement le Caravage n'a pas pu voir. Et même, je pousse le vice, si je puis dire, de l'interprétation, de la glose, jusqu'à me dire que ça ressemble à des choses qu'on peut voir en miniature dans la Villa des Mystères de Pompéi. Évidemment, le Caravage n'a pas vu. Mais parce qu'il y a, à travers le temps, une transmission invisible. Le geste d'un grand peintre, effectivement, retrouve, comme par hasard, quelque chose qui se tramait déjà sur les murs des villas, des patriciens romains. Et cette chose-là est fondamentale. Cette corbeille, c'est un cosmos. Cette corbeille, c'est une tête parfaite. Et Hector, vous disiez très bien qu'il a commencé comme ça, dans l'atelier du cavalier d'Arpin, à peindre des fleurs et des légumes. Et il aurait pu faire ça toute sa vie. Et il fonde d'ailleurs le genre et il s'en détourne.
Il fonde le genre et il s'en détourne, oui, c'est ça.
Oui, il y a autre chose encore dans ce tableau, qui est un chef-d'œuvre absolu, c'est le fameux panier de fruits et de légumes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des légumes ? Non, de fruits simplement.
Des fruits, je crois, dans la corbeille, c'est que des fruits.
Et il est en trompe-l'œil, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il est dans un cadre, comme s'il était dans une niche. Il a regardé au niveau du sol, si j'ose dire, de là où repose le panier porte un petit peu, dépasse un petit peu. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre du tableau, on passe de l'hyperréalisme au papier peint. On passe de quelque chose qui est un trompe-l'œil au sens où on y voit toute la rotondité des volumes des fruits. Et puis, dès qu'on s'éloigne un petit peu vers la périphérie, on voit presque que c'est comme si des ombres de feuilles qui étendent leurs bras et qui vont de la sculpture à la peinture.
Et d'ailleurs, le Caravage disait qu'il fallait autant de travail pour produire des fruits ou des fleurs que des figures.
Ça, c'est son côté, c'était aussi un bras d'honneur, son côté insolent.
Alors, justement, ce côté insolent, pour finir...
C'est pas non plus le meilleur des portraitistes, hein. Dans l'histoire de l'art, voilà. Je voudrais quand même dire, c'est pas l'homme qui fait les meilleurs
fusils. On peut pas être le meilleur en tout. Mais l'insolence de Caravage, vie de débauché, vie d'excès de Caravage, j'ai appris en vous lisant qu'il était même allé jusqu'au crime, que ça l'avait conduit à fuir à Naples, puis à Malte, et puis de Malte à Rome. Il est mort à 39 ans de la malaria, dans une solitude totale. Mais justement, que faire de cette vie ? Et là, Yannick Hennel, vous semblez hésiter, parce que vous dites « la vie d'artiste n'a jamais produit un artiste », donc vous avez peur d'une espèce de tentation romantique de magnifier le dérèglement du Caravage. Et puis, un peu plus loin... Vous êtes rattrapé par votre amour de bataille, et donc vous dites, mais quand même, il transgresse les limites esthétiques et morales, et déborde par sa soif de liberté les manières de vivre auxquelles chacun s'assigne par pusillanimité ou petitesse de vie. Si nous n'avons pas commis de crime, c'est pas forcément par pusillanimité. Donc, mais que faut-il faire, justement, de la vie du Caravage quand on étudie l'œuvre du Caravage ? Yannick Hennel.
Alors, je n'ai pas de réponse toute faite, simplement mon expérience. J'avais envie de sortir le Caravage de la légende un peu toute faite, comme ça, du mauvais garçon, qui parfois nous empêche d'aller regarder tout simplement la délicatesse violente, profonde de ce qu'il fait. Et je me disais que, tout compte fait, même s'il est mort à 39 ans, comme tous les grands peintres, il a passé beaucoup plus de temps à peindre dans sa vie qu'à aller se saouler, en fait. Mais que par ailleurs, même si ça n'apporte pas à la grande peinture d'aller faire la bamboche. Par ailleurs, il se trouve que c'est quelqu'un qui est pris, c'est pour ça que je parlais de bataille dans ce livre beaucoup, il est pris dans la dépense et non pas dans l'économie. Et ça se lit dans sa peinture aussi. L'immense dépense somptuaire de tout ce qu'il possède. C'est quelqu'un qui avait énormément de succès à l'époque. C'est pas un artiste maudit.
Oui, absolument.
Il avait énormément de succès et il meurt avec rien.
Il meurt avec rien.
Voilà, moi je ne partage pas du tout, c'est pas du tout le cas des gens autour de cette table, cette jouissance qu'un certain public a trouvé qu'un génie serait en plus un criminel et ça lui donnerait une aura en plus. D'abord, pour moi ça lui donnerait une aura en moins car je suis plus moraliste que chrétien, premièrement. Et deuxièmement, je n'y crois absolument pas. Attention, c'est pas parce qu'il a commis un assassinat qu'il a commis un crime. C'est-à-dire qu'il s'agissait à chaque fois de duel ou de rixe ou de d'échauffourée. Enfin, c'est pas tout à fait comme un crime crapuleux, etc. Premièrement, et deuxièmement, je pense que les trois biographes qui parlent de ces beuveries sont des ennemis de Caravage et des concurrents de Caravage, et je ne prête aucune foi à tout ce qu'ils racontent.
Très bien.
Je pense qu'on ne sait rien sur Caravage.
Alors, nous finirons sur ces mots décisifs. Alors, je voudrais rappeler, Yannick Hennel, le titre de votre livre, La solitude Caravage. Il est publié chez Fayard. Et vous publiez aussi, avec François Méronis et Valentin Rey, Tout est accompli, un essai aux éditions Grasset. Hector Balk, votre prochain spectacle.
C'est après-demain.
C'est-à-dire lundi.
Lundi soir.
Merci. À l'atelier, à quelle heure? Au théâtre de l'atelier.
20h30, je cite du Caravage dans l'ensemble de toute l'histoire de la peinture.
Oui, c'est une histoire de la peinture.
En moins de deux heures.
La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Vivons-nous sous l'empire du politiquement correct ?» Mes invités seront Mathieu Boccoté et Laurent Geoffrin. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Laurence Malonda. À la technique aujourd'hui, Alain Joubert. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.